Je crois, chers musiciens, musiciennes, chanteuses et chanteurs du groupe de louanges, que vous ne pouvez pas choisir un cantique plus approprié à ce que je voulais partager dans cette dernière session d'envoi, Amazing Grace, qui devrait vraiment être comme un hymne pour nous chrétiens quand on connaît l'histoire de ce cantique. Amazing Grace. Et avant de partager ce que j'ai préparé pour vous, j'aimerais présenter mes excuses à trois personnes dans cette salle. Trois personnes. La première, c'est Reynald Kosicki. Je suis désolé, Reynald, sincèrement, d'avoir écorché ton nom hier. Et je te présente mes excuses ainsi que ta femme, parce que le nom, c'est quelque chose de trop important. Et il ne faut pas maltraiter le nom des gens. Je voudrais aussi présenter mes excuses à Brad Dixon. À Brad. Super! Et puis la troisième personne à qui, et je vous assure, c'est des excuses sincères. Et le Seigneur m'a repris après mes impairs dans ma manière d'écorcher les noms des gens. Et je voudrais aussi présenter mes excuses, mais il semblerait qu'il soit parti à Richard Morris. Il n'est plus là. Richard, que j'ai cité hier, quand j'ai évoqué cette idée que je suis à un moment de ma vie où je dois passer de Marthe à Marie, et j'avais trouvé cette image tellement forte, passer d'une spiritualité beaucoup moins active à la Marthe. Et vous savez, quand on est trop actif, on veut reporter sur les autres les contrariétés que parfois les choix que nous faisons nous amènent à faire. Et puis cette spiritualité beaucoup plus contemplative de Marie, qui est assise au pied de Jésus, et Jésus dit clairement, tu vois, Marie a choisi la meilleure part. Et cette part ne sera pas enlevée. Et c'est Richard qui, dans une discussion qu'on a eue pendant ce congrès, m'a inspiré cette idée. Et je veux vraiment lui rendre la paternité de cette idée. Et j'ai aussi écorché son nom hier. Et j'en suis vraiment navré. Alors, des gens sont venus me voir également pour me dire, alors, et le château? Parce que tu as dit ce que vous avez vécu au mois d'avril 2009, et comment cette histoire s'est terminée avec Martine qui refuse de me suivre dans ce projet, et mon engagement à ne pas l'obliger à faire quelque chose parce que je suis gourmand de projets. Et je sais que ça, le Seigneur veut aussi m'aider à calmer mes ardeurs pour rentrer dans une démarche plus ralentie. Et bien, ça s'est terminé le 15 septembre 2009 à la Tour Montparnasse avec Maître Bagé, notre notaire qui est chrétien et le vendeur du château et la SAFER. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la SAFER. Pour ceux qui sont dans le monde agricole, hein, c'est cet organisme qui gère de manière mi-publique, mi-privée les intérêts du monde agricole. Et il ne fallait surtout pas que nous fassions de ce château un parking, par exemple, et que les paysans, les agriculteurs ont droit de préemption sur tout ce qu'on fait dans un château en zone agricole. Et... Ah, tiens. Et devant Maître Bagé à la Tour Montparnasse, qui est son bureau parisien quand il vient de Nantes, Monsieur Bagé est en train de lire le contrat de vente. Et vous savez, c'est très officiel et on doit aller au travers du contrat. Et à un moment, il cesse de lire, il lève la tête, il enlève ses lunettes et devant la SAFER, devant le vendeur, nous dire à Martine et à moi, Gérard et Martine, est-ce que vous êtes conscients du cadeau que Dieu vous fait? Est-ce que vous êtes conscients du cadeau que Dieu vous fait? Vous ne méritez pas ce cadeau. Vraiment. Je ne reprendrai pas ma lecture, dit-il, tant que vous ne m'avez pas répondu à cette question. Est-ce que vous êtes conscient que tout est grâce et que Dieu fait des dons, fait des cadeaux qui ne dépendent ni de nos compétences, ni de nos mérites, ni de nos œuvres, ni de nos manquements. Dieu fait des cadeaux gratuits. Et il nous fait des cadeaux gratuits, comme le salut, qui est le premier grand cadeau qu'il fait, alors que nous ne le méritons pas, ni d'une manière, ni d'une autre. Et nous avons répondu oui, 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 nous sommes tout à fait conscients que c'est un cadeau et nous essaierons d'être les bons gérants et les bons serviteurs du cadeau que Dieu nous a fait. Il a remis ses lunettes et il a repris la lecture du contrat. Et nous avons fini par signer. Un grand moment dans notre vie. Un grand moment dans cette tour Montparnasse que je n'aurais jamais imaginé être le lieu d'une signature pareille. Voilà, c'est notre dernière rencontre. Et je voudrais encore vous remercier du bonheur, du plaisir que vous m'avez donné de réfléchir sur ces sujets. Et je n'oublierai pas le verset que vous aviez choisi pour illustrer la réflexion que vous vouliez que nous ayons. Ce verset que l'on trouve dans le livre de Josué. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous faites ce que vous voulez. Et j'ai relu ce texte et c'est très intéressant de voir la manière dont Josué amène le peuple à prendre ses responsabilités. Et Josué place vraiment le peuple devant un choix capital. Un choix capital qui va entraîner leur intégration aux tribus de l'Alliance ou à leur rejet. Et c'est un choix que vous devez faire, dit-il. Et le choix que propose Josué, c'est en fait de se décider pour le Dieu de l'Exode et le Dieu de la conquête. En fait, le Dieu de l'histoire. Le Dieu de l'Exode et le Dieu de la conquête contre les divinités cananéennes et mésopotamiennes. Et il y a tellement de divinités aujourd'hui qui ont remplacé ces Cananéens et ces Mésopotamiens dans notre société. Et vous savez que, en général, le verbe « choisir » qui est utilisé là, a dans la Bible toujours Dieu pour sujet. C'est Dieu qui choisit, et non pas l'homme. Et bien, dans cette invitation que nous fait Josué, au choix de Dieu doit correspondre maintenant le choix de l'homme. Et c'est un choix que nous devons faire. Le choix du Dieu de l'Exode et de la conquête. Alors, quelles sont les conséquences de ce choix aujourd'hui pour nous qui vivons au XXIe siècle? Alors, réponse pas facile. Parce que je pense que chacun d'entre nous, nous avons nos dieux mésopotamiens et cananéens. Et quand je disais hier, le cadeau que Dieu nous fait, que nous devons et que nous sommes invités à mûrir, eh bien pour mûrir, nous devons accepter de mourir à des choses que nous connaissons dans notre vie, dans nos relations, dans notre spiritualité, dans notre vie d'église, dans notre vie de famille, dans notre vie personnelle. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais vraiment arriver à l'essentiel. Je crois que le premier choix que nous devons faire, conséquence de ce choix que nous faisons du Dieu de l'Exode et du Dieu de la conquête, le premier choix que nous devons faire après avoir choisi Dieu, eh bien, est d'accueillir le monde dans lequel Dieu nous a fait naître. Et d'accueillir la période particulière dans laquelle Dieu a décidé de nous faire naître. Et ça doit être de notre part un sujet de louange. Parce que si nous n'aimons pas le monde dans lequel nous sommes, et bien Dieu nous répondra, bien écoute, je suis désolé, c'est le seul monde que je mets à ta disposition. Donc aime ce monde. Et dis merci d'être né dans ce monde particulier. Il n'y a qu'une personne qui a choisi la date de sa naissance, le lieu de sa naissance, le contexte culturel de sa naissance, c'est Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, nous n'avons absolument rien choisi. Et le monde dans lequel nous vivons est à la fois un monde beau et complexe. Et c'est vers ce monde qui est le nôtre, qui appartient d'abord à Dieu, que nous sommes envoyés. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le monde dans lequel nous habitons. Alors, après, quand on parle du monde, essayons de voir non seulement le monde large, mais le monde tout proche de nos relations, de nos liens, de notre fratrie, de nos églises, de nos assemblées d'églises, de nos congrès d'églises. La première pensée qui me vient, le premier verset qui s'est imposé à mon esprit, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde. Ce n'est pas Dieu a aimé le monde, mais Dieu a tellement aimé le monde. Jean essaye de mettre là mais toute la passion de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui va vous sembler tellement évident, mais il faut dire parfois des évidences. Dieu aime ce monde avec tout ce qu'il contient. Dieu aime tous les hommes, sans exception. Et il y a une place dans le cœur de Dieu pour tout homme, toute femme qui habite ce monde. Tout homme, toute femme, quelle que soit sa culture, quels que soient ses choix éthiques, quel que soit ce qu'il fait de sa vie. Tout homme, toute femme que Dieu appelle à la repentance, que Dieu appelle au changement radical, qui est un cadeau. Le changement radical est un cadeau. Ce n'est pas un poids que Dieu met sur nos épaules. Le changement radical qui est la conséquence de notre acceptation du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Car Dieu a tellement aimé le monde. Et notre Seigneur Jésus a vécu dans ce monde et a personnifié pendant toute sa vie vivante, et même encore aujourd'hui, mais en tout cas charnellement, Jésus-Christ a personnifié dans sa manière d'être, dans sa manière d'enseigner, dans sa manière de rencontrer les gens, dans sa manière de s'intéresser à tous les gens. Et l'évangile de Luc est admirable pour montrer vraiment à quel point Dieu, au travers de Jésus, c'est les bras ouverts de Dieu qui accueille les petits, qui accueille les enfants, qui accueille les femmes. L'évangile de Luc insiste particulièrement sur la tendresse particulière que Jésus avait avec pour les dames, pour les femmes. L'évangile qui le plus parle de cet amour que Jésus a pour les perdants, pour les ratés, dans une société qui ne donne la part belle qu'à ceux qui réussissent, qu'aux grands. Cet amour particulier que Jésus avait pour les petits. Et tout au long de son ministère, Jésus a été confronté à des gens qui avait beaucoup de peine à rentrer dans cette culture. Et Jésus, sachant la difficulté humaine de rentrer dans cette culture de la grâce, Amazing Grace, qu'on a chanté tout à l'heure, a raconté beaucoup d'histoires. Jésus n'a jamais parlé de la grâce de manière théorique. Jésus était un grand conteur. Toutes les histoires qu'il a racontées pour nous parler de Dieu comme un père, pour nous parler de Dieu et de la relation qu'il veut avoir avec nous par rapport à une famille dans laquelle vous vous rappelez le plus jeune dit à son père, ben moi je désire qu'une chose, c'est que tu meures parce que c'est mon héritage que je veux maintenant. Et on ne demande pas un héritage à quelqu'un qui est vivant. Et quand on raconte cette histoire dans certaines cultures, ils nous disent, mais cette histoire n'a ni queue ni tête. Et l'attitude de ce gamin est absolument abominable. Souhaiter la mort de son père. Et Jésus a raconté plein d'histoires, mais Jésus a surtout été confronté à toute la mentalité des gens, et surtout des gens religieux, qui étaient pétris de disgrâce. Les pharisiens et les scribes maugraient. Il accueille les pécheurs et il mange avec eux. Et j'imagine la moue dédaigneuse qui accompagnait de tels propos. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Seigneur, veux-tu que nous demandions au feu du ciel de descendre pour les détruire ? Qui est le plus grand ? Vous vous rappelez que les disciples, c'était leur obsession. Qui est le plus grand parmi nous ? Qui doit être servi comme le plus grand ? Ou cet homme de la parabole dans Luc, dont Jésus dit qu'il dit « J'ai beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. » Disgrâce. Il y a 6 jours, disent les pharisiens, pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Disgrâce. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier. C'est Jésus qui raconte cette parabole dans Luc 13. Et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Coupe-le donc. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ? Et vous vous rappelez que le jardinier dira à son maître, non, donne-moi encore une année, je vais mettre de l'engrais. Et il va finir par porter du fruit, cet arbre. Donne-lui encore une chance. Luc 19, en voyant cela, quand Jésus va se jacher, il est allé loger chez un pécheur. C'est impensable qu'un homme qui se dit rabbin, fils de Dieu, Dieu lui-même, puisse aller loger chez un pécheur. Comment l'altérité ultime peut-être rencontrer les vermisseaux que nous sommes, les vers de terre que nous sommes ? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi des anciens ? La loi des anciens, la culture qui s'impose à nous et qui nous modèle tellement qu'on ne peut pas imaginer de rentrer dans cette ère nouvelle, cette culture de la grâce. Pourquoi tes disciples transgressent-ils en permanence la loi des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent. Oh, la grave affaire ! Renvoie-la, car elle crie derrière nous, la difficulté que nous avons à supporter les gens qui insistent, surtout quand ils souffrent, et quand tout d'un coup ils découvrent qu'ils ont la possibilité de sortir de la souffrance, et qu'ils hurlent ça au Seigneur. Mais renvoie-la. C'est insupportable de voir cette femme souffrir comme ça, et nous importuner, nous qui sommes tellement bien dans le confort de notre bonne santé. Renvoie-la. J'ai observé tout cela, le jeune homme riche. Que me manque-t-il ? À chaque fois que quelqu'un vient voir Jésus en prétendant mériter l'attention de Dieu, mériter la grâce de Dieu, mériter la faveur de Dieu, mériter le regard bienveillant de Dieu, c'est certainement l'attitude la plus puante que nous pouvons avoir devant Dieu quand nous venons avec nos mérites pour attirer sa faveur. J'ai observé tout cela. Que me manque-t-il ? Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais que tu me mesures à ce que je fais et non pas à ce que tu me demandes d'être. Ce que je fais, si je pouvais négocier ça un petit peu quand même. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. Voilà quelques paroles glanées ici et là dans l'Évangile qui montrent à quel point cette culture de la grâce doit nous imprégner radicalement. Et ce n'est pas seulement au travers d'un message, ce n'est pas seulement au travers d'un envoi que cette culture de la grâce va nous transformer, nous habiter, mais c'est véritablement en choisissant certainement la meilleure part, celle que Marie a choisie, on se met au pied du Maître et on essaye de sortir du faire pour rentrer dans l'être, à son écoute. À son écoute. Et que cette écoute, comme je l'ai dit hier, ne soit pas arrêtée. Comme je l'ai dit hier, une culture qu'on cesse de transmettre s'éteint. Et là, nous sommes vraiment dans une démarche qui est appelée à être permanente. Alors, il y a deux histoires que raconte la Bible et que j'aimerais nous laisser pour entrer dans cette culture de grâce par rapport à ces choix de vie auxquels nous allons être confrontés, par rapport aux tensions auxquelles nous sommes nous-mêmes confrontés, par rapport à la manière, et il y a eu de très bonnes questions tout à l'heure, dans l'atelier que j'animais sur comment accueillir sans approuver les comportements. C'est notre dilemme, hein. Comment accueillir, comment accepter inconditionnellement les gens sans approuver les choix moraux qu'ils font ou sans leur donner l'impression qu'on cautionne ce qu'ils font. Et comment accueillir dans l'Église toutes ces personnes qui éthiquement nous mettent sous tension, nous mettent sous pression, parce qu'on sent clairement qu'ils sont loin de ce que Dieu attend, de ce que Dieu veut. Comment accueillir, comment accepter sans approuver? Et vraiment, pour moi, c'est la clé. Et ça demande beaucoup de réflexion, certainement, beaucoup de présence au pied du Maître, pour qu'il nous inspire vraiment ce que nous devons faire des couples de même sexe qui viendront dans nos églises, parce qu'ils désirent entendre cette parole de grâce. Ces couples tellement compliqués, tellement malades de leur relation, et qui nous demandent de leur parler de ce que le Christ est, pour qu'eux aussi puissent rentrer dans ce changement radical. Mais comment accueillir sans approuver? Alors, j'aimerais vous lire cette histoire, moi, qui me touche beaucoup, et je ne vais pas faire un commentaire long sur ça, je vous promets, mais essayez d'extraire vraiment une idée essentielle. C'est quand Jésus parle avec la Samaritaine, je ne vous relirai pas le chapitre, vous avez certainement entendu des dizaines de prédications sur ce texte. Moi, il y a une question qui me trouble profondément dans cet entretien que Jésus a avec cette femme. Alors, vous avez bien noté que Jésus a envoyé ses disciples faire des courses parce qu'ils n'étaient pas prêts culturellement, spirituellement à supporter cette situation où Jésus parle avec une femme samaritaine et à la moralité douteuse. Et le moment qui bascule dans ce texte et qui me touche profondément, c'est quand Jésus dit à cette femme, « Va chercher ton mari. » Alors là, ça me plonge dans un abîme de questionnement, de perplexité, que Jésus pose cette question à cette femme, « Va chercher ton mari. » Alors pourquoi ça me trouble? Parce que Jésus sait que cette femme vit avec un homme qui n'est pas son mari. Il le sait. Et est-ce que Jésus prêcherait le faux pour savoir le vrai? Non. Je ne peux pas imaginer un centième de seconde que Jésus, dans sa pédagogie, puisse utiliser un tel moyen. Va chercher ton mari. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu lui poses cette question alors que tu sais qu'elle n'est pas mariée? Là, il faut sauver cette femme des choix éthiques qu'elle a faits. Et il faut l'aider à être restaurée pour qu'elle comprenne vraiment quel est le plan merveilleux de Dieu pour le mariage. Tu sais, Seigneur, ce grand mystère dont tu nous as parlé, le mariage comme illustration de l'amour de Dieu, de la relation que Dieu a avec nous, mais il faut aider cette femme à comprendre celle-là. Et tu lui dis, va chercher ton mari, alors que tu sais pertinemment qu'elle n'est pas mariée avec un homme légitime, et qu'en plus elle a eu 5 maris. Mais qu'est-ce que c'est que cette question, Seigneur? Alors, les commentateurs de la Bible sont assez partagés sur la raison de cette question, ou le pourquoi de cette question. Alors moi, je vais vous donner juste comment je reçois ça. Jésus dit à cette femme, tu te dis mariée? Chiche. Va chercher ton mari. Tu te dis marié? De manière très cohérente, parce que... Eh bien, va chercher celui que tu appelles ton mari. Et Jésus la prend vraiment là où elle est. Jésus la prend vraiment là où elle croit qu'elle est. Jésus la prend là où les choix de vie qu'elle a faits lui font penser et croire des choses sur elle. Eh bien, d'accord, tu te dis marié, va chercher ton mari. Et là, la femme de dire, eh bien non, j'ai pas de mari. Et là, de Jésus de répondre, alors ça me trouble encore plus, eh bien, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, parce qu'effectivement, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Quelle pédagogie incroyable! Où on prend les gens où ils sont, là où ils croient être, là où les choix éthiques qu'ils ont faits les ont emmenés et les convaincent qu'ils sont dans une bonne position. D'accord, tu dis ça, eh bien, allons plus loin. Va chercher ton mari. Et de cette femme rejetée, parce qu'elle vient quand même puiser à midi, en plein cagnard, en plein soleil, eh bien, Jésus fera de cette femme la première missionnaire de l'ère chrétienne. Est-ce que vous pensez que quand elle va rejoindre les habitants du village où elle est, est-ce qu'elle a réglé tous ses problèmes? Non. Est-ce qu'elle a résolu tous ses problèmes avec les différents maris qu'elle a eus? Non. Et si elle est en situation d'adultère avec un mari qui n'est pas le sien, est-ce que le problème est réglé à l'instant précis où elle va vers les gens de son village? Elle est en chemin, en tout cas. Et c'est cette femme en chemin, cette femme qui est en train de résoudre ses problèmes, cette femme qui est en train de sortir des impasses relationnelles dans lesquelles elle s'est mise, qui va devenir missionnaire, qui va aller voir les gens de son village et qui va leur dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ, le Messie ?» Et ils viendront. Et ils constateront que c'est vraiment le Messie. Et ils diront à la fin du récit à la femme, « Eh bien oui, on est venu sur la base de ton témoignage, mais maintenant nous sommes vraiment convaincus que celui-ci est le Christ. » Et une femme qui avait pas réglé tous ses problèmes, je vous assure, hein, et réglé des problèmes tels qu'elle avait, ça prend un peu de temps. Mais le Seigneur n'attend pas que nous ayons réglé tous nos problèmes pour commencer à faire quelque chose avec nous. Amazing grace. Et ce ne sont pas nos mérites. Donc, quand dans nos églises viendront des gens à la moralité douteuse ou suspecte, essayons d'avoir cette culture de la grâce où nous accueillons les gens dans ce qu'ils disent être. Si nous voulons les emmener à là où ils devraient être, on doit partir toujours du point de départ où les gens sont. Et c'est la seule manière de les emmener plus loin. Et puis il y a une deuxième histoire qui me touche profondément et que je vous propose également comme texte d'envoi. Nous fêtons effectivement ce week-end la Pentecôte et ce serait dommage de ne pas dire quelque chose sur cela. Et vous vous rappelez dans Acte 2, quand le Saint-Esprit se répand et est donné, la stupéfaction des gens qui reçoivent ce don extraordinaire. Et la stupéfaction des gens qui observent la scène. Et c'est toujours comme ça que ça passe. Commençons par vivre intégralement cet évangile du changement radical et je vous assure que les gens vont être touchés par ça. Et ces gens qui observent, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénétiques, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Mais quel est ce cadeau qu'ils ont reçu qui balaye les cultures et les barrières que les gens mettent entre eux et que tous ces gens venant de tout le monde connu puissent louer Dieu ensemble, exprimer la louange à Dieu. Quel est ce Dieu qui brise les cloisonnements, les barrières culturelles, géographiques, morales et qui fait que tous ces gens-là peuvent ensemble, d'une même voix, louer Dieu. Et là, Dieu est en train de réaliser son plan extraordinaire. Vous savez, ce plan en trois étapes. J'aime beaucoup, dans nos enseignements, parler d'étapes, parce que c'est souvent comme ça que Dieu fait. Prends en trois étapes. On commence à Jérusalem, et c'est ce que Jésus a annoncé. On ira ensuite en Judée et en Samarie. Et enfin, on terminera aux extrémités de la terre. Vous voyez, l'Église du Seigneur, qui accueille des gens de plus en plus différents, des gens de plus en plus culturellement opposés à nous, des gens de plus en plus géographiquement éparpillés. Mais Dieu, qui est un Dieu d'ordre, et sachant que nous avons besoin de rentrer dans des processus qui soient cohérents, on commence par Jérusalem, on commence par les Juifs, ensuite on ira en Judée, en Samarie, et enfin on terminera aux extrémités du monde. Et le livre des Actes est étonnant dans cette manière de déplier le plan de Dieu par étapes. Et je termine juste avec l'étape qui nous concerne, parce que s'il n'y avait pas eu cette troisième étape, on ne serait pas là, nous les non-juifs, et les gens des peuples plus larges. Vous vous rappelez quand l'apôtre Pierre se retrouve chez Corneille, et que là, Corneille va être les prémices, notre prémisse à nous, des non-croyants, des non-juifs, pardon, qui vont recevoir cette bonne nouvelle. Et vous rappelez que Corneille, quand il reçoit Pierre chez lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se prosterne devant lui. Et là, je me dis que Pierre a dû avoir une espèce de jouissance, de se dire « Enfin, quelqu'un qui se prosterne devant moi !» Quand on se rappelle de toutes les discussions immatures de petits-enfants qu'ils avaient avec le maître, qui est le plus grand ? Et voilà que quelqu'un enfin reconnaît en Pierre quelqu'un de grand et il se prosterne devant lui. Et là, Pierre, touché par la grâce, dira à Corneille, « Lève-toi, parce que tu vois, moi aussi, je suis un être humain. » Amazing grace. Moi aussi, je suis un être humain. Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Et il leur dit, « Vous savez, qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger. » L'ancienne culture, l'ancienne tradition, les anciennes croyances qui nous font être, nous font penser comme on pense maintenant. Il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. La culture de la grâce. D'aucun homme qu'il est impur ou souillé. Et si j'essaye de parler aux gens que je regarde impurs ou souillés de l'extérieur, sans entrer chez eux, comme Pierre le fait auprès de Corneille, eh bien, l'évangile ne sera pas transmis et la culture restera aux portes de nos cœurs. Alors Pierre prit la parole, chapitre 10, verset 34, « En vérité, je comprends que Dieu n'est pas partial. Dieu n'est pas partial. Et je peux vous assurer que dans la bouche d'un juif pieux comme Pierre, reconnaître que Dieu n'est pas un Dieu partial et que Dieu, dans sa grâce qui veut faire couler, comme on l'a entendu tout à l'heure, il nous invite à aller de plus en plus loin et accueillir des gens de plus en plus différents de nous. Et que dans cet accueil de gens différents de nous, même si nous n'approuvons pas leur comportement, eh bien de pouvoir regarder personne comme souillé ou impur. Parce que ça reviendrait pour nous à remettre en question le travail de purification que la croix a fait. Définitivement fait. Il faut juste que nous puissions dans nos églises imprégné de cette culture, qui baigne dans cette culture, et bien pouvoir le transmettre à notre tour pour que le Seigneur soit vraiment réjoui, honoré de constater que ses enfants ne résistent pas à la grâce comme trop de gens l'ont fait du temps où Jésus était sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide dans les défis immenses qui sont devant nous à pouvoir être ses porteurs de sa grâce. Et qu'il puisse faire de chacun d'entre nous, mariés ou pas mariés, des signes de son royaume, des signes de sa culture. Et si les gens ne voient pas Dieu, ils nous verront, nous. Et ce sera peut-être certainement l'occasion pour nous de montrer Dieu, parce que cela ne vient pas de nous, mais de Dieu qui est béni éternellement. Amen.